Nous étions arrivés au chapitre 3
et nous allons étudier ce chapitre 3. Alors, nous le lirons par fraction pour bien rester en contact avec le texte. Nous lirons d'abord les deux premiers versets. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Nous allons d'abord étudier ces deux versets. Hélas, le peuple d'Israël s'était installé à son gré dans son élection. S'installer dans son élection, dans la position que Dieu lui donne, lui a donné lui-même. Certes, il est le peuple élu, mais il en a fait, en somme, surtout un sujet de contentement personnel, un sujet d'orgueil, et aussi un sujet de pleine sécurité. Il est le peuple de Dieu, il n'a rien à craindre, on pourrait dire ça c'est la foi, oui, à condition de justifier constamment que l'on est le peuple de Dieu. Et ce n'était pas le cas de ce royaume d'Israël, qui était une part du peuple élu, qui le savait bien, mais cela le conduisait à des désordres très graves. D'abord, il se reposait dans le plaisir, dans le luxe, comme nous l'avons vu, et par conséquent dans l'insouciance, en cédant à toutes les aspirations charnelles, à toutes les convoitises qui pouvaient l'atteindre, et en se livrant à l'apostasie, à l'idolâtrie, l'apostasie. Je dis l'apostasie parce que le culte du veau d'or était un culte qu'il destinait à l'Éternel, sous cette forme-là. Et c'est bien là le propre de l'apostasie. Dans le christianisme, on n'a pas écarté Jésus-Christ. Toutes les formes du christianisme ont bien gardé, naturellement, Jésus-Christ. Ils ont gardé aussi Dieu, le Père, mais ils le servent à leur manière. Et ils le servent par des voies qui sont absolument celles que l'homme s'est lui-même données, qui sont des voies purement charnelles, des voies dans lesquelles l'homme trouve son contentement charnel, le contentement de son âme, et il n'y a plus rien pour l'esprit, telles sont les formes généralement traditionnelles du christianisme. Il y avait en somme là une apostasie dans ce royaume d'Israël, outre bien sûr les faux dieux qui étaient venus des peuples voisins. Mais il y avait à la base, n'est-ce pas, une très grave apostasie. Alors étant le peuple élu, Israël veut jouir de tout ce qui l'attire. Il se met à l'ombre de l'Éternel. Ça, c'est bien dit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, à l'ombre du Très-Haut. Et il se met, lui, mais faussement à l'ombre du Très-Haut, parce qu'il se met à l'ombre, non pas pour lui être fidèle, mais pour se couvrir de l'impunité qu'il s'attribue en tant que peuple de Dieu. Il s'attribue, lui, des grâces. Il s'attribue des privilèges, des avantages. Voilà comment il se met à l'ombre de l'Éternel, non pas par la fidélité. Il vit en somme d'illusions. Alors, précisément, dit le Seigneur par la bouche du prophète Amos, c'est parce que je vous ai choisi ou élu, entre toutes les familles de la terre, que je vous châtirai sans ménagement pour toutes vos iniquités. Entre le peuple de Dieu et l'Éternel, il y a une alliance. Nous l'avons déjà dit, il faut bien considérer ceci. Nous sommes entrés, l'Église elle-même, n'est-ce pas, et ça a toujours été la voix de Dieu, l'Église est entrée dans une alliance, nous sommes pris dans une alliance. Et bien sûr, nous ne sommes pas par conséquent libres de décider nous-mêmes de ce que nous avons à faire, ou quelle sera notre conduite, notre comportement, ce qu'il y aura dans notre cœur. C'est l'Éternel qui en a décidé d'avance. Et tout cela se trouve dans l'Alliance. Pour nous, c'est la nouvelle Alliance. Mais ce peuple de Dieu, autrefois, était lui aussi dans une Alliance. L'élection et la délivrance que Dieu lui avait attribuée augmentait tout simplement sa culpabilité. Les mêmes choses chez les peuples voisins étaient coupables, mais là, dans le peuple de Dieu, dans le peuple de l'Alliance, c'était bien davantage coupable. Chers amis, je n'ai pas un mot à retirer de cela pour l'Église. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Nous sommes plus coupables que d'autres hommes, bien plus coupables, et nous allons le préciser même, bien plus coupables que d'autres hommes, nous qui sommes entrés dans l'alliance avec le Seigneur. Nous allons d'ailleurs relire les reproches que Jésus adresse à des villes impénitentes de son temps, du temps où il était sur la terre. Alors, Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. C'étaient des villes d'Israël. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, donc des villes qui n'étaient pas du peuple de Dieu, hein, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que les privilèges, les grâces que Dieu apporte au peuple élu lui font en quelque sorte une obligation d'être fidèle, et s'il manque à être fidèle, sa culpabilité est plus grande. Les grâces que Dieu accorde à ses élus doivent donc les inciter au bien, à la fidélité, car autrement, elle détermine une aggravation du jugement. Nous pourrons consulter encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 10.
chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voyez-vous, les membres du peuple élu deviennent des rebelles. Les gens du monde sont dans la rébellion, mais là, c'est une rébellion au second degré. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Il est évident que ce passage est particulièrement sévère, alarmant. Il veut être alarmant. Alors peut-être, puisque nous l'avons lu, vous faut-il quelques mots d'explication. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors il s'agit là d'une rechute. Il s'agit d'une rechute qui éloigne délibérément celui qui la commet de la vérité. Il s'agit en somme d'un rejet du salut, retomber dans le péché, si nous péchons volontairement, c'est-à-dire si nous retombons dans la situation qui était la nôtre avant notre conversion, ou qui est celle des gens aveuglés du monde qui vivent volontiers dans le péché. Alors, si nous retombons dans cette situation, c'est ce que veut dire le texte quand on l'éclaire par le contexte. Il s'agit d'un rejet du salut qui rend l'homme beaucoup plus coupable que s'il n'avait jamais connu la vérité. Et ce rejet peut venir comment? Eh bien, il peut venir en conséquence d'un abandon progressif de la foi et d'un retour également progressif aux pratiques du péché. Les pratiques du péché peuvent peu à peu se réinstaller dans la vie de quelqu'un qui a été authentiquement chrétien, qui est chrétien, et alors elle s'amplifie, elle constitue un retour à la vie de péché. C'est cela que le texte signale, et à ce moment-là, alors l'homme est définitivement rejeté, il ne peut plus y avoir une seconde régénération. Mais le jugement sera alors bien plus sévère. Le jugement sera terrible pour un tel homme. Il y a donc une aggravation du jugement pour ceux qui ont été éclairés. Nous revenons au prophète Amos, toujours au chapitre 3, et nous allons lire les versets 3 à 8. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétisera? Dans ces quelques versets, nous avons sept figures. Sept figures qui semblent tout d'abord devoir simplement illustrer les versets 7 et 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Et puis surtout le verset 8, le lion rugit, qui ne serait effrayé, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Mais il y a un peu plus que cela. Ces sept images ont chacune leur propre indication. Alors nous allons les regarder un peu en détail, quoique rapidement. Le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est assez simple, évidemment, quand deux personnes marchent ensemble, c'est qu'ils le veulent bien, n'est-ce pas? Et puis qu'ils sont d'accord pour aller à une destination, à la même destination, ensemble. Alors, bon, cela étant, de même, doit-on dire, de même, l'Éternel et son prophète, sont deux, l'Éternel et son prophète, ont entre eux une marche commune, une action commune. Le prophète et l'ouvrier avec Dieu, ben, ils sont ensemble, ils sont, si je puis dire, n'est-ce pas, en prenant le terme de cette figure, ils sont convenus ensemble, ils font une marche ensemble, et là, le prophète, le Saint-Esprit, disons, veut nous montrer que lorsque l'Éternel se sert d'un homme pour prophétiser, eh bien, c'est bien lui qui est là dans cette action-là, ben, c'est bien l'Éternel. Il y a l'homme qui parle, bien sûr, et qui va même animer cette prophétie par toute la force qui coule en lui venant de Dieu. Alors, il y a, en somme, une collaboration étroite entre Dieu et son prophète. Le verset 4. 4, alors, il y a deux figures dans le verset 4. Prenons la première. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Alors, dans la forêt, lorsque le lion aperçoit une proie, il commence à pousser un rugissement effrayant qui fait trembler, parce que ce rugissement va faire justement effrayer la proie et en quelque sorte la paralyser. Alors, elle va être clouée au sol, là, comme paralysée, et le lion va s'avancer pour la saisir. Alors, de même, puisque c'est une image, de même, si l'Éternel parle avec force, comme le lion pousse un rugissement, c'est qu'il y a une proie, c'est-à-dire, c'est qu'il y a un coupable. Si l'Éternel parle fort, il y a un coupable. Si l'Éternel menace, il y a un coupable. Comme lorsque le lion rugit, il y a une proie, il y a là un coupable. Et ce coupable, c'est le peuple d'Israël. Alors, la deuxième partie du verset 4, le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Alors là, c'est un... Le lionceau, le petit du lion, Ils poussent des cris de satisfaction à ce moment-là. Pas pour effrayer, ce sont des cris de... Il est tellement satisfait d'avoir fait une capture, d'avoir une proie, qu'il pousse des cris. Alors, de même, l'Éternel fait une capture, celle d'un peuple coupable. Il fait une capture. Alors, non seulement il va prophétiser, mais il va pousser des cris, si l'on peut dire, c'est-à-dire que, vous le voyez, n'est-ce pas, il y aura un développement de ces menaces contre le peuple, un développement de tout ce qui caractérise les méfaits de ce peuple. En quelque sorte, vous voyez, l'Éternel va pousser des cris, n'est-ce pas, parce que il a fait une capture, il a saisi un peuple coupable, et il ne va pas le lâcher. Voilà des figures qui sont audacieuses, mais elles ont pour dessein de montrer, n'est-ce pas, combien la parole de Dieu est sérieuse. Elle faisait trembler les sages israélites autrefois. Nous arrivons au verset 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? S'il y a un filet, et si l'oiseau tombe dans le filet, c'est bien qu'il y a eu un piège préparé. De même, alors que l'oiseau tombe tout à coup dans le filet, parce qu'il y a eu un piège, de même Israël tombera soudain sous le coup du châtiment de Dieu, parce que Dieu n'a pas, si vous voulez, littéralement tendu un piège, mais Dieu a patienté, Dieu a attendu, Dieu a observé, et puis il finira, n'est-ce pas, par prendre son peuple soudain, la soudaineté, n'est-ce pas, du filet qui saisit l'oiseau, qui prend l'oiseau, ce sera la soudaineté des jugements, des châtiments qui frapperont le peuple de Dieu. Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? C'est parallèle un peu. Israël sera captif comme l'oiseau pris au piège. Du moment, n'est-ce pas, que l'Éternel, je dis bien sûr littéralement, l'Éternel ne tend pas un piège et un filet, mais il observe, mais il regarde, et il voit, et alors, du fait qu'il voit, eh bien, Israël sera pris, lui, comme l'oiseau au piège, parce que il s'est détourné de Dieu, et il a irrité Dieu. Le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Alors, de même que lorsqu'on sonne de la trompette, c'est qu'il y a un événement grave. Il y a l'ennemi, par exemple, qui approche de la ville. Alors, on sonne de la trompette pour rassembler les défenseurs de la ville. De même, la parole du prophète sera un avertissement, comme le son de la trompette, et qu'il faudra écouter en tremblant et en s'humiliant. Le son de la trompette fait trembler parce que l'ennemi est là. Eh bien, là, de même, la parole du prophète devra faire trembler Israël. Il faut qu'Israël tremble et s'humilie. Dans la deuxième partie du verset 6, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non, il n'arrive pas de malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur. Nous avons dans les Lamentations cette affirmation que les biens viennent de l'Éternel, mais les maux viennent aussi de lui. Les mots M-A-U-X, pas le mal, pour faire une distinction entre le mal qui ne peut pas venir de Dieu et les mots, c'est-à-dire les choses qui sont douloureuses pour l'homme. Pourquoi les mots viennent-ils? Mais parce que l'homme est un rebelle et l'homme constamment
irrite son Dieu. Alors Dieu est obligé de châtier, et par conséquent, les maux viennent bien de lui. Alors, le malheur annoncé par le prophète viendra en tant que châtiment de l'Éternel, viendra de Dieu en tant que châtiment. Et le verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu révèle toujours ce qu'il va faire à ceux des serviteurs qu'il choisit en un temps déterminé. Il se donne des serviteurs, des auxiliaires humains, et il leur révèle ce qu'il va faire. En somme, il les associe à son œuvre par avance, si bien que le serviteur participe à l'œuvre de Dieu, non pas comme un automate, mais avec tout son esprit, tout son cœur, parce que Dieu lui a révélé. Et en somme, toutes les intentions de Dieu sont venues dans le cœur du serviteur. Il comprend vraiment la pensée de Dieu et il agit, lui, avec toute la promptitude et la fougue même que l'Éternel veut lui donner. Donc, il collabore avec Dieu, comme Moïse a collaboré, comme Samuel aussi, comme David, qui supputait même par avance les desseins de Dieu, comme David, comme Élie, qui pouvait lui dresser sur le Carmel un autel devant tout ce peuple livré à l'idolâtrie et tous les prêtres des faux dieux. Et alors, il pouvait même arroser son autel et la victime avec beaucoup d'eau, et puis il pouvait demander à l'Éternel de faire descendre le feu, et l'Éternel le faisait. Il y avait collaboration entre Dieu et Élie, de même avec Élisée, de même avec Daniel, rappelons-nous le songe, l'interprétation du songe. Il y a un travail commun entre Dieu et son serviteur. Dieu fait connaître à son serviteur ce qu'il veut faire. Il y a aussi, nous citerons alors aussi, bien sûr, dans cette liste, mais alors là, c'est nous atteignons la perfection, c'est le Seigneur Jésus, qui, dans toutes ses déclarations, nous montre, en effet, comment il travaille avec le Père, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est cette collaboration, alors, la poussée à la perfection, mais elle est pour nous un exemple, elle est pour nous un guide. Le Seigneur Jésus travaillait avec son Père. Le Père aime le Fils et lui dit tout ce qu'il va faire. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ils agissent en étroite liaison. Et c'est bien ce que Dieu veut faire. L'apôtre Paul aussi. Nous pourrions dire que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, l'apôtre Paul et bien d'autres ont tous été dans cette collaboration avec Dieu. Et on comprend l'expression de l'apôtre Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Pour Moïse, c'est quelque chose de très, très évident, quelque chose qui est même bien exposé dans la parole de Dieu, nous est montré à un moment. Dieu dit à Moïse, tu vois, ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte et que tu as conduit jusque-là, ce peuple que tu as fait sortir, eh bien, voilà ce qu'il fait maintenant. Il s'est corrompu. Et puis, quand Moïse se retournera vers l'Éternel pour s'opposer à la destruction du peuple que Dieu avait annoncé, alors il dira à Dieu, « Seigneur, ton peuple, celui que tu as fait sortir du pays d'Égypte et que tu as conduit jusque-là, il a fait sortir, c'est Moïse ou c'est Dieu ?» C'est Dieu avec Moïse, c'est tous les deux, n'est-ce pas ? Dieu, évidemment, a donné la force, Dieu a donné tout ce qu'il devait donner, n'est-ce pas ? Mais Moïse était là et collaborait avec Dieu. Si bien que Dieu peut dire à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir, et Moïse dit à l'Éternel, ton peuple que tu as fait sortir. Ils l'ont fait tous les deux, ils l'ont fait ensemble, n'est-ce pas ? Et c'est un grand principe, mes amis, un grand principe du service de Dieu, d'abord pour ceux qui sont dans le ministère, n'est-ce pas ? Ça, c'est une des choses qu'ils doivent savoir. On ne peut pas agir autrement comme ouvrier avec Dieu, que dans la collaboration avec Dieu. Si on se met en marge de la collaboration, c'est fini, on fait des choses humaines. Mais même dans l'Église, pour tout le monde, vous ne pouvez pas être des témoins du Seigneur, en dehors de la collaboration avec Dieu. Quand Paul dit « nous sommes ouvriers avec Dieu », il ne le dit pas pour lui seulement, il le dit pour les chrétiens. C'est une collaboration avec Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, une des grandes raisons pour lesquelles, pour être témoin, pour avoir la parole du témoignage et pour avoir, disons, aussi l'attitude du témoignage, la vie sainte du témoin, eh bien, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il faut cela, parce que le témoignage est une véritable collaboration avec Dieu, sans quoi il n'est rien du tout. Toute œuvre qui n'est pas dans la collaboration avec Dieu est une œuvre fausse et purement charnelle. Alors, mes amis, attention. Attention, n'est-ce pas, quand nous voulons témoigner, il ne s'agit pas de dire, oh, mais je vais aller ceci, je vais faire cela, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela. Bon, ben va, puis tu verras bien, tu ne feras rien du tout. Ce sera zéro. Ton fruit sera absolument inexistant. Mais si au contraire tu as prié, si tu te sens poussé vers quelqu'un dans une direction, dans un certain travail, tu te sens poussé, l'Éternel est avec toi, il marche devant toi et même il marche aussi derrière toi, il ferme la marche, tu portes les vases de l'Éternel, alors tu viens et puis tu annonces ce que le Saint-Esprit t'a dit, alors là, tu produis un fruit qui demeure. Qui demeure, un fruit qui demeure. Il n'y a comme ça on peut produire un fruit qui demeure. Attention, chers amis, pensez au témoignage. Ça ne procède pas le témoignage de la petite jugeote humaine. Ça n'a rien à faire avec la petite jugeote, avec les petites décisions humaines. Hein. Le témoignage, il faut aller le chercher en haut. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu, constamment présent, constamment puissant en nous, que nous pouvons être les témoins du Seigneur. Autrement, nous sommes, et on le voit malheureusement chez ceux qui ont refusé a priori le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, ceux qui, en somme, retirent au Saint-Esprit une grande partie de son office, alors on le voit chez ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont des avocats. Ils sont des répétiteurs de la Bible, ils ont appris des versets par cœur et puis ils viennent les dire. C'est pas mal, vous me direz. C'est pas mal, mais ça ne fait rien. C'est sans force. Ça ne fait absolument rien. Et quelquefois, alors, n'est-ce pas, ils viennent apporter des perles qu'ils jettent à des chiens et les chiens ou des pourceaux et les pourceaux se retournent contre eux et les mordent. Ah, il faut absolument, chers amis, que tout dans la vie chrétienne, et surtout l'œuvre du témoignage, soit surnaturel. Tout est surnaturel dans la vie chrétienne. Nous avons, nous, une position naturelle sur cette terre. Mais dans notre être, qui est encore naturel par le corps,
et notre vie sur la terre qui est encore naturelle puisqu'elle ressemble à la vie des autres hommes, je veux dire les contingences de la vie, n'est-ce pas, la satisfaction des besoins courants de la vie, oui, eh bien dans ce naturel surgit le surnaturel de Dieu, et c'est ainsi qu'il y a des chrétiens et qu'il y a des témoins de Christ. Autrement, il n'y en a pas. Donc, nous disions que Dieu révèle ce qu'il va faire. Puis, dans le verset 8, le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait. Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Alors là, c'est déjà pour nous faire entendre que le rugissement du lion qui est de nature à effrayer, eh bien, nous fait penser à la parole d'avertissement de l'Éternel, qui elle aussi devrait nous effrayer, nous faire trembler. Amos l'a reçu, et alors, dans la deuxième phrase du verset 8, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ? Amos fait allusion à sa position, à sa situation actuelle. L'Éternel a parlé, alors il est dans la contrainte, il est obligé, lui, de prophétiser. Il entend, en somme, la parole de l'Éternel le premier, c'est lui qui en est effrayé le premier, alors il est contraint de prophétiser, comme ont été contraints les autres prophètes, Ésaïe, par exemple, Jérémie, Ézéchiel, et d'autres, et même l'apôtre Paul. Tenez, nous allons pouvoir regarder ça dans des textes. Ces prophètes, et même, vous voyez dans le Nouveau Testament, je prends l'apôtre Paul comme exemple, eh bien, tous, n'est-ce pas, tous ces ouvriers avec Dieu, tous ces envoyés de Dieu, connaissent cette contrainte qu'exerce sur eux la parole de Dieu. Une contrainte. Il faut qu'il y ait cette contrainte. Alors, nous allons lire, par exemple, Jérémie 20. Jérémie 20, verset 7. Alors, nous allons voir là les plaintes du prophète, parce que, dans le fond, n'est-ce pas, ça l'éprouve beaucoup, lui, le prophète, cette affaire-là. Mais c'est nécessaire. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » C'est-à-dire dans ses résistances, n'est-ce pas, il a été obligé d'abandonner ses résistances. Et je suis chaque jour un objet de raillerie devant, évidemment, les autres à qui il apporte la parole de l'Éternel. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Voyez-vous, l'Éternel rugit. Il faut que je crie. Il faut. Il ne peut pas faire autrement. Il faut que je crie. Et que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Ah, ça, évidemment. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, quelquefois l'idée lui vient dans son cœur, oh, ben, je vais m'arrêter quand même, je ne vais plus prophétiser. Ah, non, c'est véritablement trop éprouvant de cela. Alors, si je dis ça, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis pas. Voyez-vous la contrainte. Il essaie de contenir la parole, il ne peut pas, il faut qu'il crie. Il faut qu'il a crié la parole de l'Éternel. C'est une nécessité. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. C'est bien là encore, n'est-ce pas, dans cette circonstance-là, je le dis en passant, que Jérémie est un type de Christ. Il en a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont à certains égards des types annonciateurs de Christ. En effet, n'est-ce pas, Christ sera lui-même épié. Oh, si on avait pu trouver un moment, une circonstance dans laquelle il est chancelé, alors on aurait eu tout de suite le bon prétexte pour mettre la main sur lui. Mais l'Éternel est avec moi
comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils sont remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, la position du prophète Jérémie. Dans un autre passage, le prophète Jérémie dira à l'Éternel, « Mais tu mets ta fureur en moi. » En tant qu'homme, naturellement, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de fureur, mais c'est la fureur de l'Éternel qui vient en moi, et je suis obligé de la manifester. La contrainte, c'est comme ça que Dieu se sert des hommes. Alors vous me direz, c'est l'Ancien Testament. Eh bien, voyons un petit peu l'apôtre Paul, alors, dans 1 Corinthiens 9:16, si c'est l'Ancien Testament, 1 Corinthiens 9:16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Celle d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur l'Évangile. Voyez, n'est-ce pas? Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Je suis obligé, je ne peux pas. J'irai contre une force qui me saisit et qui m'oblige à annoncer l'Évangile. Je voudrais bien, moi, que tous les évangélistes sentent cette force-là, non pas? Hein? Oui, que tous ceux qui parlent de la part de Dieu sentent cette force. Et vous voyez, quelquefois, quand on se met un petit peu en colère, eh bien, c'est pas sa colère à soi, mais... Et véritablement, n'est-ce pas, le Seigneur nous fait passer l'indignation qui est la sienne. On ressent l'indignation du Seigneur. Alors le Seigneur n'est pas celui qu'on appelle le bon Dieu, hein, qui s'accommode de toutes choses, qui use de paternalisme. Il use de paternité, mais pas de paternalisme. Hein. Ça, c'est un faux Dieu, celui-là. Mais le véritable Dieu, lorsqu'il voit que les âmes se détournent du droit chemin, il est indigné et sa colère s'enflamme. Alors il le dit. Nous arrivons maintenant au verset 9. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10 ensemble. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod. Et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. Alors là, c'est assez curieux, c'est un mode que l'on retrouve aussi en d'autres prophéties, pas très souvent, mais enfin on le retrouve quelquefois. Alors ici, cette parole du prophète Amos, que Dieu lui donne, s'adresse à des messagers imaginaires, supposés, et qui vont aller dans les villes païennes des nations voisines, et ces nations voisines sont ici essentiellement les Philistins et les Égyptiens, deux nations qui sont très dures à l'égard du peuple de Dieu. Alors, ces messagers, l'Éternel leur dit d'aller dans les villes païennes des nations deux nations que je viens de citer, pour appeler ces nations à venir constater les désordres qu'il y a dans le pays d'Israël. Venez. En quelque sorte, il y a là ce que nous lisions tout à l'heure dans les Hébreux. Il faut, pour toute constatation, la loi de l'Éternel le veut, deux ou trois témoins. Et c'est quelque chose d'analogue ici, n'est-ce pas? Alors, les témoins, Dieu les prend en dehors d'Israël, naturellement, et il les prend parmi les ennemis, les ennemis irréductibles, là, les Philistins et les Égyptiens. Alors venez-vous, venez peuple à côté, venez voir un peu ce que me fait mon peuple. Venez voir comment il se conduit, comment il se comporte. Venez, venez, sur les montagnes de Samarie, là où on domine la situation. Venez voir. Que faut-il voir? Eh bien, il faut voir, là, ici, ce que fait le peuple d'Israël. Et, en quelque sorte, ces témoins vont constituer une sorte de tribunal. Ils ont là, en quelque sorte, pour être des témoins dans le jugement que Dieu veut rendre contre son peuple d'Israël. N'avons-nous pas quelque chose d'analogue dans les évangiles? Ah, mais oui. Mais oui, mais oui. Et Jésus-Christ s'est servi de ce mode. Il s'est servi de la même chose. Et par conséquent, n'est-ce pas, il faut bien reconnaître que ce mode est celui de Dieu et qu'il en usera. Lisons simplement un passage de Matthieu, Matthieu chapitre 12. Chapitre 12, verset 41 de Matthieu. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que de Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voyez, là, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, se reportant à l'époque du jugement, prend à témoin, des témoins, prend des témoins extérieurs. Ici, c'est Ninive, parce que Ninive a eu un mouvement heureux de repentance. Et puis là, c'est la reine de Saba qui est venue voir et qui a vraiment été transportée de constater la sagesse surnaturelle de Salomon. Eh bien, ils serviront de témoins contre le peuple de Dieu, contre des gens de cette génération, c'est-à-dire ceux qui entouraient le Seigneur Jésus et qui ne reçoivent pas sa parole et qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Il y a là donc quelque chose de tout à fait analogue. Les Philistins et les Égyptiens, qui étaient des d'âpres ennemis du peuple de Dieu, sont pris à témoin, ils sont appelés à venir constater les actions abominables du peuple de Dieu d'Israël. Dieu les convoque, venez, là, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez, voyez, voyez ce qu'il y a. C'est une interpellation extraordinaire et ça donnait, évidemment, ça donne toujours beaucoup de mouvement à cette parole du prophète. Et que vont constater ces témoins? Eh bien, ils vont constater une immense confusion, dit le verset 9. Voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. Une confusion. Et pourquoi une confusion? Parce que le peuple est privé de tout discernement. D'abord, la parole de Dieu n'a plus de force dans son cœur, et puis il n'a plus du tout de discernement, ce qui arrive fatalement lorsque l'on abandonne peu à peu l'observation, l'obéissance à Dieu, l'observation de sa parole. Alors là, le discernement s'en va. On manque de discernement, on n'a plus de discernement. Oh, chers amis, dans l'exercice du ministère pastoral, c'est une chose que l'on trouve quelquefois, ça. Et c'est infiniment douloureux quand on voit quelqu'un qui vient, une âme qui vient, qui a des besoins, on veut l'aider, bien sûr, à se rétablir, à se redresser, et puis on sent que le discernement fait défaut, le discernement du bien et du mal, le discernement même des esprits. Ça fait défaut, ça manque. Alors, qu'est-ce qu'il y a? De la confusion. Une immense confusion. Alors, il voit la confusion. Avec la confusion, c'est le désordre de la vie. C'est le désordre qui s'installe. Et que voit-il aussi? Des violences. Ils entassent dans leur palais. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine.
Alors, violence contre les faibles et contre les petits, la rapine, nous l'avons vu, n'est-ce pas, en vue de toujours pourvoir au luxe de leur palais d'ivoire. Or, il fallait des ressources, il fallait du blé, il fallait du vin, il fallait toutes sortes de marchandises qu'on puisse vendre ou qu'on puisse utiliser sur place. Et tout ça, eh bien, il l'avait par des moyens qui étaient, bien sûr, très loin de la droiture. Alors, pas de droiture du tout dans les cœurs. Alors, voilà ce que l'Éternel demande aux témoins extérieurs de venir constater. Allez, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et puis voyez ça, voyez ce défaut de droiture, voyez toutes ces violences, voyez cette confusion. Alors ensuite, c'est le châtiment dont ici le prophète Amos fait encore un rappel à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15, jusqu'à la fin du chapitre. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre, je renverserai les maisons d'hiver et les palais d'été, les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Cette chose est assez compréhensible, je n'ai pas besoin tellement de l'expliquer. Il n'y a que les deux jambes ou le bout d'oreille. C'est une allusion à l'agneau qui a été saisi, je l'ai dit l'autre jour, par le lion. Alors le lion commence déjà à dévorer, n'est-ce pas ? Et puis le berger vient là, et malgré tout, il ne va pas lui laisser tout prendre. Alors il va lui retirer les jambes, de la gueule, et puis un bout d'oreille. Ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas ? Une image qui veut dire ceci, eh bien, ainsi se sauveront les enfants d'Israël, c'est-à-dire ils se sauveront, mais non sans dommage. Ils ne vont pas se sauver tout entier, c'est-à-dire qu'ils vont pâtir, n'est-ce pas, soit dans leur vie, soit dans leur santé, peut-être vont-ils être gravement blessés, atteints, en tout cas, ils vont pâtir d'une manière ou de l'autre, et ceux qui arriveront à se sauver, eh bien, ne se sauveront pas sans de graves dommages. Et puis alors, bien entendu, Israël va être complètement rasé, Bethel, avec ses autels, avec ses maisons d'hiver, ses maisons d'été, tout ce luxe, tout ça va être détruit, entièrement détruit et supprimé. Le Seigneur ne laisse pas subsister sur cette terre et ne laissera pas subsister ce qui a fait l'orgueil, ce qui a été le cadre des malversations, des transgressions de son peuple. Et c'est pourquoi, même maintenant, nous pouvons considérer que la terre est tout de même, dans son ensemble, le peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple créé par Dieu, et nous l'avons vu, Dieu porte son regard aussi sur tous les hommes et sur toutes les nations, eh bien nécessairement, n'est-ce pas, tout ce luxe qu'il y a maintenant, tout ce qui fait le plaisir et l'orgueil des hommes aujourd'hui, tout sera détruit, aplati, ratatiné, entièrement, livré au feu. Déjà, Ésaïe nous le dit lui-même dans son chapitre 2. Voilà, chers amis, des choses que nous avons à savoir. Il faut que nous les sachions. Il faut que notre foi s'attache à ces choses, car c'est encore nous, ici, que l'Éternel prévient de ce qu'il va faire, non pas seulement sur le peuple d'Israël, cela il l'a fait, mais il va le faire sur la terre. Et prenons garde, nous, de bien rester un peuple étranger sur la terre. Étranger, nous avons une autre destinée. Nos destinées vont se séparer. Nous sommes un peuple étranger sur la terre, un peuple pèlerin. Et nous avons pour cité la cité céleste. Amen.